Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Tout d'abord, bonne année 2024 à vous. Une année délivrée de la guerre, de la haine, de la destruction, comme cela serait merveilleux. Mais je regarde les infos et je doute fortement vivre un jour dans ce monde paradisiaque.
L'année 1940 a pris fin. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'année 1941 sera difficile. Elle doit être celle du relèvement de la France. Elle le sera si vous vous serrez tous autour de moi, ayant la même foi dans la patrie, la même volonté de « servir ». Je me suis donné à la France, c'est-à-dire à vous tous. Nous aurons faim. La guerre nous a enlevé une part importante de nos récoltes, le blocus nous prive d'un ravitaillement qui, dans les années qui précédaient la guerre, se chiffrait, chaque année, par plus de 6 millions de tonnes de denrées de toutes espèces et de toutes provenances. La guerre continue ainsi que le blocus, il ne dépend pas de nous de les faire cesser. N'écoutez pas ceux qui chercheraient à exploiter vos misères pour désunir la nation. Les mêmes procédés vous ont conduit hier à la guerre et à la défaite. Demain, nous remporterons une première victoire, nous remplacerons la critique par l'effort. L'année 1941 doit être une année de travail acharné. Je m'adresse d'abord aux paysans de France, il faut qu'ils tirent de la terre tout ce qu'elle peut donner. Toutes les friches doivent être remises en culture, même si le sol est ingrat. Les rendements doivent être augmentés, en dépit de toutes les difficultés. Nous y aiderons du mieux que nous pourrons. Mais que chacun compte d'abord sur soi-même. Qu'il comprenne la détresse profonde d'un pays dépouillé de tant de moyens que la guerre et le blocus ont détruit ou paralysé. Je fais appel à l'ingéniosité des Français pour qu'ils improvisent eux-mêmes les moyens de compléter leur alimentation. Je m'adresse maintenant aux ouvriers. Qu'ils ne se découragent pas. Leur sort sera dur. Nos stocks de matières premières s'épuisent. Je ne puis pas savoir quelle quantité nous pourrons importer en 1941. Certaines industries risquent d'être totalement arrêtées. Nous avons fait de notre mieux et nous continuerons pour parer à cette situation. Nous devons exploiter au maximum les ressources que nous pouvons tirer de nous-mêmes. Que nos mineurs, nos bûcherons, nos carriers redoublent d'efforts. Et que tous les ouvriers, chômeurs ou non, sachent que le gouvernement de la Révolution nationale travaille à affranchir leur avenir de l'intervention du capitalisme étranger. La France doit produire et transformer tout ce dont elle a besoin pour vivre et prospérer. Ce qui a été fait ailleurs en ce sens peut et doit être fait chez nous. C'est une œuvre de longue haleine, elle est déjà commencée. Au pays tout entier, je demande qu'il se pénètre de l'esprit nouveau qui doit refaire la grandeur de la patrie. Il ne s'agit plus de reprendre un à un quotidiennement l'inventaire de nos sujets de mécontentement, de tout ramener à soi-même, d'attendre de l'État qu'il nous délivre de nos maux et qu'il nous dispense ses bienfaits. Il faut penser au malheur de la patrie et à l'infortune de tous ceux qui souffrent plus que nous. Il faut aider la patrie à secourir nos compatriotes. Aider la patrie, c'est avoir confiance en elle, c'est l'avoir présente constamment dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, ne rien accepter, ne rien dire et ne rien faire qui puisse lui nuire. Secourir nos compatriotes, c'est nous donner sans arrière-pensée, sans réticence personnelle à cette solidarité matérielle et morale qui doit réunir tous les Français. C'est relever celui qui tombe, c'est ranimer celui qui s'abandonne, c'est ramener celui qui s'égare. Je me suis promis à moi-même de ne connaître en France ni parti, ni classe. Je vous appelle tous à sortir de vos cadres, de vos routines, de vos préjugés, de vos égoïsmes, de vos rancéures, de vos défiances, et je vous exhorte à vous grouper en Français solides qui veulent défendre leur terre et leur race. J'adresse mes vœux fervents, par-delà les mers, aux populations de l'Empire et par-delà les frontières à nos chers prisonniers. La France continue. Bonne année, mes chers amis.
C'étaient les vœux du maréchal Pétain. L'on assiste au génocide des Palestiniens. Netanyahou a les mains libres pour massacrer des innocents. Les femmes palestiniennes qui meurent sous les bombes israéliennes ne sont apparemment pas dignes de la compassion de nos néo-féministes qui préfèrent se couper une mèche de cheveux en soutien aux femmes iraniennes. La fameuse Tiffen Day, qui a décidé de féminiser la langue française, parle de ses sœurs iraniennes, mais pas un mot sur Haed Tamimi, qui a été arrêtée le 6 novembre 2023 pour, d'après Tsahal, incitation à la violence. Elle a été libérée le 29 novembre, après 23 jours de maltraitance et d'humiliation. Voici un court extrait d'une de ses interviews.
Luttons contre l'occupation en restant sur notre terre, même si l'occupation cherche à nous faire sortir de cette terre. Nous continuons à apprendre. L'occupation cherche par tous les moyens à nous empêcher d'aller à l'école, par la destruction des écoles, en fermant les passages qui empêchent les élèves, les étudiants d'aller à l'université, aux écoles. L'occupation intervient dans les manuels scolaires palestiniens. L'occupation cherche à faire effacer l'image de la Palestine de ses manuels scolaires. Malgré cela, nous préservons l'image de la Palestine.
Haed Tamimi est politisé ?
Non, je ne suis pas politisé.
Vous n'êtes affilié à aucun parti politique ?
Non, je n'appartiens à aucun parti. Je respecte tous les partis politiques. Je suis une fille palestinienne.
Mais pour le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, les Palestiniens sont des animaux. En France, nos médias d'État ont pour ordre de se taire sur les crimes de guerre israéliens. Alors, pour justifier leur salaire exorbitant, ils se sont saisis de Depardieu avec l'aide de toutes les pseudo-féministes de France et de Navarre. En 1974, Depardieu et Devers crevaient l'écran dans les valseuses. Les critiques y voyaient un grand souffle, un film bourrasque. Le Point lui-même écrivait « Ces pieds nickelés salaces nous mettent l'allégresse au cœur ».
Regarde ce qu'elle nous a laissé, la petite chérie. Pas mignon, ça.
Ton avis, c'est du quel âge, ça?
Bon, 13 ans. 14 ans, à tout casser. Attends, voir. Oh là là, pas beaucoup plus, Pierrot. Beaucoup plus. C'est au moins du 16 ans, ça. Ah, oh, sans moi ce bouquet. Oh là là.
Hein? Ah. En effet, oui. Oh la vache, putain. La vache. Mm-hmm. Là, c'est au moins du... Ah oui. C'est une petite demoiselle, Jacqueline, non?
Mm-hmm. Ah, dis donc. Mm-hmm. On dirait qu'elle vient juste de se déculoter. Elle est dans la pièce à côté.
On se souvient tous de cette scène dans laquelle Depardieu et Devers reniflent les sous-vêtements d'une jeune fille. Elle a fait rire des millions de spectateurs, cette scène. Nous avions assez de cervelle pour comprendre l'humour dans ce film. Blier avait su ridiculiser deux zozos paumés. On ne peut pas dire qu'il met en avant une masculinité inquiétante. D'ailleurs, en 1977, on pouvait encore entendre Anne Léonard chanter « Mon petit cul ».
Dan dan, c'est pas les Micha Bardot. Dan dan, il est bien plus rigolo. Dan dan, il est ni laid ni trop gros. Moi je ne prends jamais plus d'une place dans le métro. Mon cul, il mûrit pas qu'en automne. Faudrait pas le confondre avec une pomme. Mon cul, c'est l'obsession d'Hamilton. Mon petit banane, mon petit cul me désespère quand il ressemble à celui de ma mère. Je fais ma gym, je le mets en l'air, mais c'est pas ça qu'il préfère. Mon cul, son père c'est pas Saint-Joseph, tout nu, c'est pas celui de Paul Naref. Mon cul n'a pas besoin d'un cache-nez, car c'est le seul endroit qui est pas prêt de s'enrhumer. Mon cul, c'est sûrement pas du dindon, tout nu. C'est une pièce de collection. Mon cul n'a pas le planning de Carlton, mais c'est pas non plus les remparts de Carcassonne. Mon petit cul se met en colère quand il se casse la figure par terre. Il rougit, il est pas fier, je vous dis que c'est pas ça qu'il préfère. Mon cul, c'est pas le clavier d'un piano tout nu, il est bien plus rigolo. Mon cul, c'est pas le dos d'un chameau, mais c'est pas non plus une montagne à escargots. Mon cul, on mûrit dire qu'une pomme m'en cul. C'est l'obsession d'Hamilton, c'est encore bien plus l'obsession de mon petit bonhomme. Dan, dan.
Le rire, le propre de l'homme, comme l'écrivait Rabelais, est aujourd'hui sous contrôle des bien-pensants. Pauvre Rabelais, il sera bientôt censuré si les tristus entendent cet extrait du torche-cul. Voici un extrait du chapitre 13 de Gargantua que je lis ici en français modernisé. En chiant l'autre jour, j'ai flairé l'impôt que mon cul réclamait. J'espérais un autre bouquet. Je fus bel et bien empesté. Oh, si l'on m'avait amené cette fille que j'attendais en chiant, j'aurais su lui accommoder son trou d'urine en bon goré. Pendant ce temps, ses doigts auraient mon trou de merde équipé en chiant. Celles et ceux qui représentent la nouvelle pensée unique se doivent de venir cracher sur Depardieu, génial acteur qui écrase tous ces histrions de seconde zone. Mais j'entends déjà les cris d'orfraie des féministes petites bourgeoises, effrayées par un clin d'œil ou une main baladeuse. Leurs mamans ne leur ont-elles donc pas appris à remettre en place un dragueur lourd ou un goujat ? Pour bien salir et rabaisser Gérard Depardieu, quelques donzelles l'accusent de les avoir violées. Ou agresser sexuellement, ce qui aujourd'hui revient au même.
C'était sur la série Marseille qui a été produite par Netflix. Alors du coup, c'était très impressionnant d'être avec Depardieu, parce que c'est quelqu'un que j'avais vu dans ma télé depuis que j'étais petite. La première fois que je l'ai vu, il a été très gentil avec moi. Donc j'ai vraiment baissé ma garde par rapport à Depardieu. Pour moi, c'était un gentil monsieur, quoi. Et la deuxième fois que je l'ai vu, on tournait dans un stade de foot à Marseille. Mon personnage, c'est un personnage de Lolita. Donc j'avais des talons hauts, un short très court, un décolleté très plongeant. Donc oui, j'étais pas tout à fait à l'aise. Tout le monde voulait faire des photos de Depardieu. Quand il y a eu une pause, on a mis les quatre comédiens, dont moi, les uns à côté des autres. Et les gens commencent à prendre des photos, donc il faut s'imaginer qu'il y a une foule devant nous. Et moi, j'entends un espèce de grognement de la part de Depardieu. Et là, je sens sa main qui va de mon dos à dans mon short, donc qui insiste pour rentrer dans mon short, qui met sa main dans mon short, dans ma culotte. Et moi, du coup, je vire sa main une fois. Il le refait, toujours en faisant ses grognements. Du coup, je lui vire la main une deuxième fois. Et là, je verbalise et je dis, il y a Gégé qui met sa main dans mon short. Il a répondu, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Après ça, tout le monde a rigolé. Moi, j'étais complètement perdue, je savais pas du tout comment réagir. J'étais en train de subir une agression et personne ne le prenait au sérieux. Donc j'ai pleuré, je suis partie. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit d'en parler à la production. C'était un monde qui était nouveau pour moi. J'osais pas, je savais même pas comment ça fonctionnait vraiment, en fait. Et donc j'ai pas non plus porté plainte. Parce que je me voyais pas arriver dans un commissariat et dire « Gérard Depardieu a mis sa main dans mon short ». Non, je pensais pas être prise au sérieux, donc ça m'a même pas traversé l'esprit de faire ça.
Ah oui, vraiment? Et elles ont attendu combien d'années pour se plaindre? Je n'ai jamais cru en ces petites actrices qui disent avoir été violées alors qu'elles ont couché pour avoir un rôle ou pour réussir dans leur carrière. Lorsque j'étais jeune, je désirais faire du théâtre. Donc j'ai suivi des cours, j'ai rencontré des acteurs, des vaudevillistes, mais rien ne sortait de ces entrevues. Je ne comprenais pas. Mais à la fin, j'ai eu le fin mot. Lors d'un entretien avec Michel Galabru au café Le Deauville sur les Champs-Élysées, je le revois, son gros cigare au bec, affalé sur son siège, me regardant bien en face pour me dire « Il faut prendre un amant qui a pignon sur rue et de l'argent. » Écœuré, je me tournais vers Pierre Barillet, l'auteur de Fleurs de cactus. Homme d'une grande honnêteté, devant mon ingénuité, il m'expliqua, exemple à l'appui, comment une actrice ou une comédienne obtenait le rôle de ses rêves. Je ne voulais pas entrer dans ce jeu. Le théâtre était fini pour moi. Je devins prof, métier qui fait appel à nos talents d'acteur. J'aurais dû lire, avant d'espérer, les mémoires de ces comédiennes ou de ces chanteuses qui, au XIXe siècle, assumaient avec panache leur amant mécène. Voici un extrait des mémoires d'Eugénie Buffet, cette chanteuse née en 1866 et morte en 1934. Je ne sais pas ce qui se passa ensuite, ni ce qu'il advint de moi. Je dus m'évanouir et quelqu'un dut m'emporter et me recueillir. Je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est que quelques heures après, un homme était à mon chevet. C'était le comte Guillaume d'Oymiasson. Le comte m'avait déjà fait savoir qu'il désirait faire ma connaissance. Il avait appris ma misère, il m'aimait, il voulait m'emmener à Paris, faire de moi sa maîtresse. J'en avais assez de souffrir et de me traîner en loques de cafés en café, de mendier de table en table, d'être coudoyé, frôlé, désiré et méprisé. Mieux valut encore la grande vie avec les dames huppées que fréquentait le comte dans les restaurants de nuit, au milieu des clartés étincelantes, des orchestres langoureux et des toilettes bariolées. Mieux valait la haute noce parmi les hommes en habit que la détresse grelottante dans les bas quartiers de Marseille. Je me laissais tenter par mon soupirant, je fis avec lui mon entrée dans Paris. Le comte savourait le plaisir de promener au milieu d'une société de fêtards chics et de poupées luxueuses la petite sauvage qu'il avait ramenée des cafés chantants et des bars de Marseille. Donc le comte, après un court séjour à l'hôtel Continental, m'installa en meublé rue Richepense, me fit donner des leçons de maintien, me chaperonna, m'introduisit chez les grands couturiers et les grands bottiers. Les modistes et les manucures me firent une beauté conforme à l'esthétique à la mode. Il me conduisit dans le monde et les grands restaurants, m'accompagna sur les champs de course et dans les coulisses des théâtres, me combla de bijoux, de cadeaux, me prodigua une passion classique à laquelle je répondis par la classique cruauté d'une femme adulée, gâtée, qui se sait jeune et belle, et qu'étourdie, et qu'écœure en même temps tout ce luxe factice et tout ce fade encens. Je fus bientôt lancée et à la hauteur de toutes celles qui quelques mois avant riaient de mes guenilles et de ma gaucherie. Un jour, le comte, las d'être malheureux et de souffrir pour moi, s'en alla en m'abandonnant quelque argent. Je quittai la rue Richepense pour venir habiter, toujours en meublé, rue Royale, et ayant rencontré le comte Arnold de Contades, ce dernier m'installa enfin chez moi, au 17 de la rue de la Trémoille. Et de rencontre en rencontre, Eugénie Buffet deviendra la première chanteuse réaliste. La voici chantant Déclaration.
L'amour que je sens, l'amour qui me cuit, ce n'est pas l'amour chaste et platonique. S'embête à la neige avec un biscuit, c'est l'amour de chair, c'est un platonique. Ce n'est pas l'amour des blondins palots dont leurs rêves flottent au ciel des estampes. C'est l'amour qui rit parmi des sanglots et frappe à coups drus l'enclume des tempes. C'est l'amour brûlant comme un feu grégeois, c'est l'amour féroce et l'amour solide. Surtout ce n'est pas l'amour des bourgeois, amour de bourgeois, jardin d'invalide. Ce n'est pas non plus l'amour de roman faux, prétentieux avec une glose, de si, de pourquoi, de mais, de comment. C'est l'amour tout simple et pas d'autre chose. C'est l'amour vivant, c'est l'amour humain. Je serai sincère et tu seras folle. Mon cœur sur ton cœur, ma main dans ta main, et cela vaut mieux que leur faribole. C'est l'amour puissant, c'est l'amour vermeil. Je serai le flot, tu seras la dune, tu seras la terre, et moi le soleil. Et cela vaut mieux que leur clair de lune.
Mais les hommes aussi étaient tenus à ce régime. Maurice Chevalier, par exemple, aura une relation avec Fréhel quand celle-ci commença à se faire connaître. Puis ce fut Mistinguette qui le lança définitivement. Et Montand, lancé d'abord par Reda Kerr, homosexuel notoire et chanteur populaire, dont il devint le secrétaire particulier. Puis par Edith Piaf, qui le rendit célèbre. Mais c'était une manie chez elle de pousser ses amants vers la célébrité. Aznavour, Moustaki, Charles Dumont, etc. Mais tout cela n'est pas grave. Si l'on assume et que l'on ne joue pas ensuite les saintes nitouches, quel est le problème? Si vous avez écouté mon émission sur les courtisanes du Second Empire, vous savez combien j'ai de respect pour ces femmes dont le courage devrait servir de modèle à toutes ces petites pleureuses qui voient de l'agression sexuelle là où il n'y a que grivoiserie ou même grossièreté. Allons, petites mesdames, n'ayez pas peur de Gérard, ce n'est pas un prédateur sexuel. Le témoignage de Fanny Ardant est clair.
La première fois que je l'ai vu, j'étais sur un tournage où j'étais comme une pestiférée parce que j'avais volé la voiture de quelqu'un et que le seul qui est venu me parler, c'est lui. Et tout de suite, je savais que c'était quelqu'un, quoi qu'il arriverait dans la vie, il serait là. Et après, quand on a tourné la femme d'à côté, une des premières scènes, il devait me serrer la main. Et c'était ça que tout d'un coup j'ai su que c'était pas un acteur. Qui, voilà, c'était comme, comme les marins que vous entraînez au grand large. Il a vraiment serré la main, il vous regardait vraiment, il vous prenait vraiment dans les bras. Que ça dépassait le fait de dire ses lignes et d'être sur sa petite marque jaune.
Ah, c'est autre chose que la Sophie Marceau qui se plaint de Depardieu, jouant à la Vierge effarouchée, mais ayant montré sur la croisette, en une mise en scène savamment orchestrée, son sein dont on n'a rien à cirer. En parlant d'elle, je me souviens de Maurice Pialat et de ce qu'il disait des actrices.
Qu'est-ce que tu penses des actrices ?
Moi, j'ai un problème avec les actrices qui fait que, par exemple, Isabelle Huppert me a tout de suite décrété que c'était un problème avec les femmes. Alors, j'ai eu un problème toute ma vie avec certaines femmes, mais je ne dois pas être le seul. Et il est amplifié avec les actrices parce que ce ne sont pas des femmes. Ou en tout cas, même si elles le sont, on ne prend d'elles que ce qui n'est pas femme. Quoi.
Pourquoi est-ce que Sophie Marceau, tu l'avais comparée à une plante grasse ?
De Marceau, j'ai dit 2-3 conneries comme ça parce qu'elle poussait un peu quand même, mais c'est pas réfléchi, c'est n'importe quoi, c'est des conneries ça. Plante grasse parce qu'elle était bien en chair et tout, que c'est plutôt une belle fille de la vie. Ce sont rares ceux qui disent que Marceau c'est un boudin quand même. Elle altère son talent, qui est réel, elle a un talent, en étant. On pourrait dire à côté de la plaque, quoi. Elle veut aller chercher des choses qu'il n'y a pas besoin. Moi, ça, je le dirais pas seulement pour Marceau, pour beaucoup de gens.
C'est pour ça que quand tu tournes, tu aimes tourner avec des vrais gens, plutôt qu'avec des acteurs ou des actrices.
En grande partie, oui.
Un réalisateur détesté par les nouvelles féministes, celles qui croient que les hommes ne pensent qu'à les agresser, les violer, les dominer, les humilier. Celles de MeToo, Balance ton porc et autres mouvements soi-disant libérateurs. Mais je crois qu'il est important d'écouter une jeune femme s'exprimer sur ces nouvelles féministes. Bonjour Louise Gabrielle. En tant que jeune femme de 22 ans, que pensez-vous du féminine universel de Tiphaine D ?
Bonjour Jeanne. Tout d'abord, merci de me laisser m'exprimer dans cette émission et sur cette radio. Par rapport au féminine universel de Tiphaine D, je pense que si mon problème dans la vie était le genre des mots, je pourrais considérer que je n'ai pas de problème. J'admets éviter d'entendre cette personne et ce genre de personne au maximum car je trouve cela très agaçant. Pourtant, j'adore jouer avec le langage. À une période, je ne parlais qu'en verlan avec mon frère et cette année, j'essaye d'intégrer le plus possible le passé simple à l'oral. Et je salue la gymnastique cérébrale de Tiphaine D car il n'est pas facile d'apposer la marque du féminin sur tous les mots d'une phrase. Ou plutôt sur toutes les mottes d'une phrasine. J'ai beaucoup aimé étudier les écrivains de l'Oulipo au lycée et un de mes hommes de lettres préférés, Raymond Queneau. En revanche, prétendre que féminiser la langue va régler les problèmes des femmes est un mensonge et il est honteux de faire croire que cette bataille a autant sa place dans la lutte féministe que celle des droits civiques par exemple. En 1984, une initiative française alla dans le sens de la féminisation des noms de métiers. Pendant ce temps, le nombre de maternités est passé de 1369 en 1975 à 814 en 1996 et à 458 en 2020. Le nombre de lits est quant à lui passé de 32 000 en 1975 à 14 000 en 2020. Alors certes, des femmes doivent faire plus de 2 heures de route pour accoucher, mais au moins, sur leur fiche de poste, il est écrit « caissière » et non pas « caissier ». Les moyens des plannings familiaux quant à eux ne cessent de diminuer Mais c'est pas grave, on n'écrit plus « mademoiselle » sur mes factures. En 2023, la réforme des retraites adoptée par 49.3 pénalise les femmes ayant un ou des enfants. Avant, chaque enfant permettait d'obtenir 8 trimestres pour la retraite, pouvant d'ailleurs être partagé avec le père, et cela permettait aux femmes de partir à taux plein, plus ou moins en même temps que les hommes, vers les 62 ans. Aujourd'hui, nous devrons rattraper nos congés maternité. Mais c'est pas grave, au JT on dira « les travailleurs.heureuses meurent avant le départ à la retraite ». Ce que font les gens comme Tiffany D est épouvantable pour les luttes féministes. Ces femmes occupent du temps de parole et du temps de réflexion pour des bêtises. Ce sont des considérations de bourgeoises, elles savent qu'elles n'auront jamais de problème de maternité ou de retraite si elles veulent des enfants, alors que pour la plupart des femmes, ces questions sont autrement plus déterminantes pour l'existence que le remplacement de « il pleut » par « elle pleut ».
Pour illustrer tes propos, je propose d'écouter cette fameuse Tiffany D.
La situation, c'est 10 000 ans d'oppression patriarcale mondiale. Il y a moins de 400 ans en France, une poignée de misogynes qui décident que dorénavant la langue sera encore plus sexiste et qui décident que le masculin l'emporte. Aucune raison d'obéir à ces mecs-là. Et puis, dans tout cela, il y a à une moment, à partir de 2012, une artiste féministe qui décide de féminiser la langue pour faire entendre comme d'ordinaire tout y est masculinisé, pour aussi élargir les horizons de création. Elle l'a fait dans ses œuvres, elle n'a absolument pas le pouvoir de forcer qui que ce soit à parler ainsi, quand bien même la voudrait-elle, la veut-elle, elle ne l'a encore jamais dite. Et là, des mecs pètent un plomb. La menace de la frapper, de la faire enfermer, voire pire. Honnêtement, les copines, si vous n'aviez pas encore comprise où est l'ennemi principal, le même ennemi principal qu'on a toutes, je pense qu'il suffit de lire les commentaires sur les dernières publications du Crayon Média. Et aussi, si les hommes subissaient le début du quart de la moitié de ce qu'on subit, nous les femmes, ça fait longtemps qu'ils auraient pris les armes.
Louise, qu'as-tu pensé de MeToo quand c'est sorti il y a quelques années? Et aujourd'hui, que penses-tu de l'affaire Depardieu?
Quand l'affaire MeToo est sortie, j'étais lycéenne et fort mal dans ma peau. J'ignore si cet état émotionnel fragile m'a rendue insensible, mais je fus surprise par l'ampleur des témoignages, et puis effrayée aussi. Apparemment, des dizaines de femmes du quotidien ont dénoncé, à la suite des actrices, des comportements gênants de la part des hommes, allant de couper la parole en réunion au viol. Effectivement, un viol c'est très grave, bien sûr, et beaucoup ont dénoncé le fait que la justice et la police n'en avaient rien à faire, et... je pense que malgré toute la bonne volonté de certains juges et de certains policiers, ces institutions ne sont là que pour servir le pouvoir en place et le capitalisme. Donc il ne faut pas s'étonner s'ils ne vont pas dans notre sens. Donc nulle inquiétude que si une bourgeoise se faisait violer par un ouvrier, la justice et la police fonctionneraient bien plus efficacement que quand c'est l'inverse. Et je pense que tant que les femmes du bas peuple seront exploitées au travail, leurs corps ne seront pas protégés par le capitalisme et par les outils qui le maintiennent en place. Les délits d'agression sexuelle ne furent pas absents de Twitter, et donc je me suis bien renseignée, une agression sexuelle est selon le service public, le site du service public, un contact physique, avec ou sans violence d'ailleurs, sur des parties sexuelles. Il est vrai que c'est fort pénible, mais dans ces cas-là, je me suis demandé pourquoi ne pas se priver d'une bonne baffe, finalement. Alors on pourrait dire « Ah, parce que l'agresseur peut porter plainte, donc il faut se laisser faire et après porter plainte. » Mais est-ce qu'on doit accepter que la police, donc l'État, s'immisce à ce point dans nos vies? Est-il souhaitable que nous remettions la préservation de notre dignité dans les mains de la police? À titre personnel, si je me fais toucher les fesses, c'est moi ou ma mère, mon père, mon frère, un oncle, un ami, même un passant, qui vais lui régler son compte à ce malotru. Et je pense qu'il est tragique que des gens, que ce soit des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, qui se retrouvent seuls au point de ne plus pouvoir se défendre. Et cette situation, ce n'est pas la police qui la réglera, c'est plutôt une question bien plus large de société. Également, depuis 2023, l'outrage sexiste, qui consiste en des phrases humiliantes, hostiles ou dénigrantes, est passé dans la loi de l'infraction au délit. Et réelle question et réelle inquiétude de quand j'étais... au lycée, comment des femmes qui se remettent à la police pour une insulte sexiste vont pouvoir apprendre à leurs filles, donc à moi, leurs sœurs, leurs amis, leurs collègues, à se défendre elles-mêmes? Aucun homme n'oserait dire une insulte sexiste s'il est entouré de femmes qui savent le remettre à leur place. C'est la pression sociale, finalement. Au travail, il m'est arrivé qu'un collègue alors qu'on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, se permettait des blagues graveleuses et il n'a pas fallu beaucoup de menaces de ma part et de celles de mes collègues pour qu'ils cessent de m'ennuyer finalement. Et je préfère partir du principe qu'il y aura toujours des imbéciles et apprendre à me défendre par rapport à ces gens plutôt que d'attendre que cessent les incivilités, parce qu'elles ne cesseront pas si on se laisse faire tout simplement. Concernant les blagues, il y a énormément de façons de réagir pour moucher leurs auteurs. Je pense que ça ne mérite pas une plainte. Ça mérite simplement, écoute, tu m'emmerdes, ou alors une autre blague pour enchérir. La drague lourde, qui a aussi été dénoncée, m'est arrivée quelques fois. La plupart du temps, un simple « désolé, j'aimerais qu'on arrête de parler » suffisait. Et si ça suffisait pas, tu m'emmerdes et bloquer la personne, t'es aussi très efficace. Et je pense que s'il faut le dire avec l'appui d'amis, de membres de la famille, pourquoi se priver ? Ils nous embêtent, je pense qu'on a le droit de se défendre, même si ça va loin. Donc en conclusion de cette première partie de ma réponse, j'ai envie de dire « apprenons à nous défendre, apprenons à nos filles, nos sœurs, nos amis, nos femmes, à se défendre. » Et concernant les actrices, puisque c'est elles qui ont lancé le mouvement MeToo, on sait maintenant comment on entre dans le monde du spectacle. Et je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas s'y soumettre. Mais pour jouer sur scène, comme pour faire de l'art plastique, du jardinage ou n'importe quoi d'autre, il n'est pas forcément nécessaire d'exercer une activité rémunérée dans le domaine. On peut très bien jouer dans une troupe de théâtre le week-end à la campagne et je ne vois pas en quoi c'est moins estimable. Par exemple, l'homme qui m'a appris à dessiner était établi dans un village après une carrière qui était vraiment bien dans le système. Il en a tiré profit, il s'est constitué une situation confortable pour couler des jours heureux à la campagne à la fin de sa vie. Il donnait des cours à des jeunes et des adultes et des vieux qui se retrouvaient dans les expositions et il était un pilier de la vie du village. Il assumait, sans pour autant le crier sur tous les toits, qu'il s'était servi du système et il était bien plus heureux dans ce village et je me rappelle qu'il râlait quand il peignait des chiots pour des vieilles dames riches, mais comme il me le disait, ça fait quand même 3000 euros le tableau. Voilà, donc si l'on veut faire de l'art du spectacle, on peut tout à fait le faire sans entrer dans le système et donc soit on s'en sert et on l'assume, soit on résiste.
Et sur Depardieu, Louise, qu'as-tu à dire ?
Alors concernant Depardieu, on ne sait pas encore le fin mot de l'histoire, mais si les femmes ont accepté son comportement sur le tournage pour garder leur rôle, on peut dire qu'il s'agit d'une forme de prostitution, mais pas vraiment d'agression sexuelle. En revanche, si elles ont refusé et qu'il les a forcées, là oui.
Merci beaucoup, Louise.
Merci à vous, bonne émission.
Au revoir et bonne journée. Maintenant, un petit intermède avec « J'aime les filles » de Jacques Dutronc. Une chanson qui ne doit pas plaire aux Tiffendé, aux Sandrine Rousseau et à toutes leurs petites amies.
J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne.
Si vous êtes comme ça, eh bien, vous téléphonez. Vous tombez sur ma mère, d'ailleurs. Bonjour, maman. Alors, si, mais ça ne fait rien, si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez me téléphoner quand même.
Hein? J'aime les filles à d'autres. J'aime les filles à papa. J'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Beaujac-Pébert, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper.
Vous êtes comme ça, vous là, spécialement pour vous, vous les téléphonez. Ah bon, bon d'accord. Vous voulez pas me téléphoner, vous ? Ah bon, d'accord. Et vous non plus ? Comment ? En PCV, si vous voulez. En PCV, vous voulez pas ? Bon, ça fait rien.
J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles de Camarillo.
Vous êtes jamais.
J'aime les filles intellectuelles,
sûrement.
J'aime les filles qui me font marrer. j'aime les filles qui font vieille France, je sais pas. J'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras.
Téléphone, on doit déjà avoir appelé, non? Allô? Ah non, c'est impossible. Non, non, vraiment. Vous pouvez répondre à ma place, il est. Hein? Tu ne peux pas.
Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi.
Ces féministes apparues avec le wokisme ne font pas vraiment l'unanimité. Elles fatiguent ceux qui sont encore dotés d'un peu de bon sens. Mais c'est dans la prochaine émission que l'on évoquera le wokisme. Aujourd'hui, je voudrais terminer avec un extrait de la dernière interview de Pier Paolo Pasolini, qui, comme tous ceux qui ont un regard sans concession sur la société, la bourgeoisie, le capitalisme, comme tous ceux qui ne se laissent pas berner par les fausses révolutions ou un nouveau conformisme, fut en butte à la méchanceté des imbéciles. Évidemment, toute sa vie, il sera attaqué pour obscénité, pour son roman Une mort violente ou pour son film Mama Roma. Et pour son dernier film, Salaud ou les 120 jours de Sodome, ses détracteurs s'en prendront à sa mémoire puisque Pasolini fut assassiné 2 mois avant la sortie de son film.
Mi sento superato.
Oui, je me sens dépassé.
A questo punto mi sento addirittura di abiurare dalla mia trilogia della vita, cioè dal Decameron fino alle Mille Une Nuits.
Oui, j'ai l'impression que je suis obligé d'abjurer la trilogie de la vie que j'ai faite, c'est-à-dire le Decameron, Canterbury et les Mille Une Nuits.
Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin?
Non, i cineasti direi di no. Forse
non, les cinéastes non. Les producteurs peut-être. Les producteurs des films porno.
Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule « Les 120 jours de Sodome », une fois de plus celui par lequel le scandale arrive?
Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique?
Naturellement.
Bien entendu.
Et la scatologie?
Anche la scatologie.
La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme?
Ma in certi ambienti,
dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Eh bien, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.